Radio Bark, un invité sur Grand Sud FM pour mieux connaître ceux qui font l'actualité régionale. Radio Bark, c'est le 34e et le dernier d'ailleurs de cette saison.
Et saison numéro 7, Jean-Claude.
8, monsieur
le maire. Nous finissons la 8e saison.
Le temps passe, eh monsieur oui. le maire. Je reçois donc Didier Mouly, maire de
Bonsoir
Narbonne.
Bonsoir à tout le monde.
Président également du Grand Narbonne, c'est-à-dire de la communauté d'agglomération. Je souligne au passage que nous avions fait un accord, monsieur le maire, en début de saison, comme quoi vous viendriez au moins une fois par trimestre faire le bilan de vos actions, à la fois municipales et communautaires. Vous avez tenu parole, je vous en remercie.
C'est la moindre des choses de respecter un engagement pris avec Grand Sud FM. D'abord parce que vous collaborez directement à la vie quotidienne de l'ensemble des habitants de la Narbonnaise, et ensuite parce que vous êtes une source d'information objective qui permet à tout un chacun d'être informé sans parti pris.
Voilà ce que nous nous efforçons de faire.
Et que vous avez réussi depuis au moins 8 saisons pour Radio Bark.
Merci en tout cas Didier Mouly. Alors, comme toujours, donc, on va passer parfois de la ville, de la municipalité à l'agglo, parce qu'il y a un certain nombre de sujets dont il n'est pas toujours facile de faire le tri.
Les deux s'entrecroisent. On va essayer de faire un effort tous les deux pour vraiment scinder chacune des parties.
Voilà, les deux s'entrecroisent, mais en tout cas, ça intéresse de toute façon l'électeur, l'auditeur, le citoyen, que ça soit le Grand Narbonne ou la ville de Narbonne. Alors, monsieur le maire, on vient d'avoir une élection législative qui a surpris pas mal de monde en France et dans notre département. L'Aude, comme les voisins des Pyrénées-Orientales, se retrouve avec un grand chelem RN, Rassemblement National. Alors d'abord une première remarque qui a peut-être surpris certaines personnes. On avait eu l'impression que vous encouragiez à voter Péréa pour ce deuxième tour. Or, c'est pas dans les habitudes Nouveau-Narbonne.
Je pense que vous êtes le témoin privilégié des 30 dernières années de la vie de Nouveau-Narbonne, et en tout cas des 8 dernières années. Il n'est pas question, par mon adhésion et ma représentation de Nouveau-Narbonne, de modifier quelques principes que ce soit. En me présentant aux électeurs, j'ai rappeler que j'étais avant tout un gestionnaire et que je serais un élu de proximité. Je pense que depuis 8 ans, ils ont réalisé que la ville de Narbonne a été gérée en bon père de famille et que je n'avais pris personnellement aucun engagement politique. Il n'était pas question en 2022 de changer l'image que Nouveau-Narbonne avait et que les élus de Nouveau-Narbonne doivent transmettre vis-à-vis de l'ensemble des citoyens. La prise de position qui a été la mienne entre les deux tours de l'élection législative est une prise de position conforme aux principes énumérés par Nouveau-Narbonne. Relater le travail qui a été fait pendant nos mandats, le premier et le second, avec les députés en place, que ce soit avec Marie-Hélène Fabre ou que ce soit avec Alain Péréa, et en tirer le constat que c'est grâce à des élus au niveau de l'État, au niveau du Parlement, au niveau du député, que l'on travaille mieux avec le gouvernement en place plutôt qu'avec des élus qui n'ont pas cette représentativité au sein du gouvernement et qui permettent d'ouvrir les portes. Je rappellerai que les deux députés qui se sont succédés, Marie-Hélène Fabre et Alain Péréa, nous ont permis, d'une part, de rouvrir le pont de Carcassonne et de travailler sur sa consolidation, et d'autre part, d'envisager une étude pour un échangeur sur l'A61 permettant de désenclaver les aires d'activité économique de Montredon et à venir de Névian, tout en désenclavant l'ouest de Narbonne. Donc c'est à travers ces deux exemples que je peux préciser l'intervention qui a eu lieu de ma part entre les deux tours vis-à-vis d'un député qui soit un député. Deux dossiers d'hier et d'aujourd'hui et de demain.
Et alors là, bon, la situation est totalement nouvelle. Comment l'envisagez-vous ?
Pour l'instant, il est impossible à un maire d'une des communes du Grand Narbonne d'envisager l'avenir des relations avec les députés, puisque sur notre territoire du Grand Narbonne, nous avons deux circonscriptions. La deuxième circonscription avec M. Falcon et la première circonscription avec M. Barthès. Compte tenu des propos tenus par M. Falcon dans la presse mardi matin, qui a indiqué qu'il allait taper à chacune des portes des communes et de demander au maire d'être reçu et qu'il allait communiquer d'une façon virulente s'il n'était pas reçu, j'ai pris l'initiative, en qualité de président du Grand Narbonne, d'inviter le vendredi 8 juillet à 18h à l'auditorium du Grand Narbonne, à la médiathèque, d'inviter Monsieur Falcon en présence des 37 maires de l'agglomération pour connaître ses intentions, ses projets vis-à-vis de notre territoire et surtout ses intentions par rapport au projet du Grand Narbonne dans les grands dossiers. Nous verrons ce qu'il en est de sa position et comment il va accompagner l'ensemble du Grand Narbonne sur les dossiers que nous devons porter nationalement pour avoir des réponses très positives. Les changeurs sur l'A61, le pont de Carcassonne, l'aménagement de la zone d'activité de Névian, l'aménagement du port de Port-la-Nouvelle, l'aménagement de la zone d'activité de La Palme, le trait de côte qui recule vis-à-vis de l'ensemble du littoral, puisque tout le département de l'Aude a son littoral sur le Grand Narbonne, comment accompagner l'effort touristique que le Grand Narbonne Tourisme, Côte du Midi, mais également l'ensemble des communes, fait pour permettre à ces touristes non seulement d'aller sur la plage, mais également de découvrir l'ARP. Tous ces gros dossiers que le Grand Narbonne porte, comment notre député va être aux côtés du Grand Narbonne et de ses élus pour les porter au niveau national et qu'ils aient un débouché sérieux, réaliste et à bref délai.
Voilà, donc vous l'invitez à rencontrer l'ensemble des maires.
L'ensemble des maires, quelle que soit leur tendance, leur issue, quelle que soit la taille de la commune, pour qu'on ait un projet avec lui et que lui ne fasse part du projet qu'il a envers nous.
Voilà, une position pragmatique, conforme, j'imagine, à votre conception de.
Nous sommes des gestionnaires. L'ensemble des maires des communes a accepté que l'agglomération soit une agglomération de gestion et non pas une gestion politique comme par le passé, mais une gestion de territoire comme actuellement on le conçoit. Et à partir du moment où l'ensemble des maires y souscrit, c'est pour l'ensemble des maires que j'ai invité le député à venir.
Oui. Alors Didier Mouly, vous avez mentionné entre autres Montredon pour la demande d'une sortie d'autoroute pour desservir cette zone industrielle, ou d'activité, pardon. C'est une ancienne appellation qui m'échappe. On a reparlé récemment alors de Montredon, l'hôpital privé, la polyclinique donc de Montredon, à propos de l'absence d'une desserte de bus. On avait avec vous ici à ce même micro d'ailleurs évoqué largement le problème. Vous aviez dit et expliqué votre position. Il y a quelques jours dans la presse, apparemment on est revenu sur ce sujet. Alors on peut se poser la question, est-ce qu'il y a des éléments nouveaux ou c'est simplement qu'on a mis, on a remis la casserole sur le feu, si je puis m'exprimer ainsi?
Je pense que la casserole a été remise sur le feu par le syndicat UNSA Santé de la clinique privée de Montredon et que la presse en est emparée en me posant des questions sur le transport, mais pas sur ce syndicat. Ce syndicat dit une contre-vérité en indiquant qu'il a sollicité d'être reçu par le maire de la ville-centre et par le président de l'agglomération et qu'il y a eu porte-close. Jamais ce syndicat n'a souhaité être entendu ou reçu, jamais je n'ai reçu de demande. Et à ce jour, j'ai toujours reçu, que ce soit les syndicats du centre hospitalier ou que ce soit les syndicats de la mairie, sans aucune difficulté.
Précisons d'ailleurs que vous êtes, que vous présidez le conseil
de surveillance du centre hospitalier. C'est pour ça que je voudrais rajouter à ce que vous venez de préciser dans votre question, Jean-Claude, que il n'y a qu'un centre hospitalier. Il n'y en a pas deux. Le centre hospitalier est un centre hospitalier public. On ne peut pas l'opposer à un centre hospitalier privé qui n'existe pas. Il existe un centre hospitalier avec un service public et une clinique privée avec des hommes d'affaires qui dirigent cette clinique privée. Elle n'a jamais, cette clinique, eu un service d'intérêt public. C'est uniquement un service privé donné par des employés, par des salariés, par des chargés de mission. Mais jamais il ne s'agit d'un service public.
L'agglomération, cela dit, ça rend service au public.
Mais il ne faut pas confondre.
Bien sûr.
Il ne faut pas confondre une entreprise privée qui rend service au public et un secteur public qui doit répondre au public.
Mais qui, c'est qui a, deux qui choses de différentes. Service public.
Travailler sur un centre hospitalier, les aménagements à ses abords, le stationnement ou la circulation à ses abords, c'est d'une logique de commune ou de agglomération. Mais délivrer un service public pour une clinique privée, il y a une contradiction et une opposition que je ne peux pas franchir. D'autant que cette clinique privée n'est pas dirigée par un corps médical, mais uniquement par des hommes d'affaires. La preuve en est, c'est le parking. Le parking, il est payant à la fois pour les consultés, les consultants, mais également pour les salariés, également pour les visiteurs. C'est inadmissible de dire qu'on va faire payer le parking et qu'on va demander un service public à côté de transport. D'autant que cette clinique privée, détenue par des hommes d'affaires, a un rayon d'action qui n'est pas limité à la ville de Narbonne. Ligne de transport public qui pourrait être établie. Mais elle va avoir des patients venant du Lézignanais, du Minervois, du Maritime, et même du côté bitérois. Donc comment une agglomération peut seule assurer un tel service de transport? C'est à la clinique privée de gérer sa propre navette en fonction de la provenance soit de ses salariés, soit de sa patientèle, et de faire des navettes en fonction. Vous prenez l'exemple des aéroports, et vous apercevrez que à proximité de chez nous, que ça soit Toulouse, Perpignan, Béziers ou Montpellier, ils ont des navettes privées. Ce n'est pas les instances de service public qui ont mis en place des navettes. Donc que cette clinique privée, détenue par un groupe européen, côté au second marché de la bourse quand même, faut pas l'oublier, prennent en charge les navettes qui s'imposent par rapport à la patientèle ou par rapport à ses salariés.
Voilà. Bien, merci de souligner ce paradoxe, parce qu'effectivement, selon les sources et selon ce qu'on entend, on vous rend responsable de la situation actuelle.
Il faut bien qu'il y ait toujours une tête de Turc.
Alors, sur cette tête de Turc, Monsieur le maire et Monsieur le président d'Aglo, on marque une première pause.
Allez, d'accord, Jacques-Claude.